Bien. Alors, Monsieur Jean-Claude Maes, est-ce qu'il est là?
Oui,
pardon, excusez-moi.
Comment la filiation influe ce discours tenu. J'ai pas le temps, je pense. Donc, je signale quand même que, effectivement, la filiation influence le discours. Je vous en dis seulement une chose de cette filiation, c'est que SOS Secte est une association un petit peu différente de beaucoup d'autres associations, puisque c'est une association qui ne comprend aucun bénévole, qui ne comprend que des professionnels, des intervenants professionnels, payé par le ministère de la Santé. Alors, je ne sais pas ce que la Belgique pense sur le même secteur, je ne parle pas au nom de la Belgique, c'est une association, donc je parle au nom de l'association. Mais c'est quand même un cadre particulier, un cadre, donc une des conséquences en termes de l'affiliation et l'influence sur le discours, c'est que l'affiliation est du côté de la santé. Le discours que je vais tenir sera forcément influencé par ça, par le fait que je travaille en santé. Alors, premier concept, la filiation. Je dirais que c'est un sujet très très important dès qu'on parle des enfants, qu'on parle des enfants par rapport au secte, qu'on parle des enfants par rapport à d'autres problématiques. De toute façon, à un moment donné, on retombe sur la filiation, en tout cas pour un psy. Or, justement, je pense que toutes les sectes, sans exception, ont un problème avec la filiation. Alors, je suis amusé à étudier quelques biographies de Mouron. Enfin, je ne sais pas si c'est un amusement, mais en tout cas, je l'ai fait. Et je dirais qu'il y a deux grands écueils, à mon sens, dans la filiation des sectes. Le premier écueil, ça s'organise autour de ce que nous appelons entre psy le mythe d'auto-engendrement. Quelle est l'idée? L'idée, c'est que les sectes avancent masquées, on l'a beaucoup dit, mais ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'elles ne disent pas leur nom, elles le disent de plus en plus. Ça veut dire, je pense surtout qu'elles cachent tout à fait sciemment quelque chose de leurs origines. Il y a des sources d'inspiration au niveau idéologique, entre autres, qui sont cachées. Il y a des éléments de la biographie du gourou qui sont couvertes à un voile pudique. Il y a du silence ou de l'idéalisation. On idéalise certaines choses par rapport à ce qu'elles étaient à l'origine. C'est pas un problème en soi, sauf que il faut savoir que ce thème de l'auto-engendrement au niveau psy, ça a un écho très particulier pour nous, c'est, enfin surtout pour les thérapeutes familiaux, qui sont que nous savons que quand il y a des secrets dans une famille, et des secrets de cet ordre-là, en général, il se trouve que certains des enfants vont rejouer des éléments de ce qu'on appelle le scénario honteux sous forme de comportement. Ils ne savent pas pourquoi ils agissent ces comportements, mais ils le font de façon très compulsive et ça leur cause un tort énorme. Entre autres, ça peut aller jusque la psychose pour ces enfants. Je ne dis pas que les sectes mettent tous les enfants en risque de psychose, mais je connais des cas, effectivement, de psychose. Deuxième écueil, c'est ce que j'appelle les filiations imaginaires. Alors là, j'emprunte au vocabulaire lacanien, qui est assez complexe et que je ne vous ai pas développé, mais les lacaniens différencient ce qu'ils appellent le registre réel, le registre symbolique et le registre imaginaire. Je ne vais pas développer, c'est vraiment très complexe parce que ce sont des mots qui, quand je parle de jargon, en plus c'est une langue de bois, parce que ce sont des mots qui ne veulent pas dire ce qu'on entend généralement dans le langage courant. Je vais plutôt vous donner des exemples. Un exemple de filiation réelle pour une secte, ce serait, enfin pour un groupe, on ne va pas parler de secte pour le moment, pour un groupe religieux, que serait une filiation réelle? C'est par exemple au sein du christianisme, les catholiques et les orthodoxes qui se séparent, un chien. Il y a un certain nombre d'éléments historiques, d'éléments de réalité, qui font qu'à un moment donné, les deux groupes se séparent. Mais ils ont une racine commune et une racine qui s'ancre dans une tradition, qui s'ancre dans quelque chose comme un pragmatisme historique, je vais dire. Bien. Filiation symbolique. Là, l'exemple qui vient assez évidemment, c'est l'exemple des protestants. Les protestants qui n'ont pas rompu avec le catholicisme pour assouvir une quelconque soif de pouvoir, mais parce qu'une alternative au catholicisme était de toute évidence nécessaire. Il y avait une critique motivée dans un contexte historique, dans le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il était tendu. Ça, ce serait une filiation symbolique. C'est-à-dire que sans s'inscrire dans la même tradition que les catholiques et les orthodoxes, en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre du Christ motivé, en parlant d'argumentation aussi, qui peut s'inscrire effectivement dans une filiation de type symbolique. Les filiations imaginaires. Alors ça peut suivre des chemins extrêmement insidieux. Par exemple, telle secte qui est dans un de ses manuels, alors moi je ne vais citer aucun concept, je vous préviens, c'est un principe que j'ai depuis toujours, je pourrais m'en expliquer à un moment donné, mais donc, si la secte se reconnaît, ou si elle n'est pas là, ou si d'autres le reconnaissent, je vous demanderai de garder le silence comme moi je le garde. Mais donc telle secte dans un de ses manuels se réclame pour étayer un de ses credos de la science. Et ce qu'elle fait figurer sur la même page, c'est une photo d'Einstein. En dehors de tout contexte, hein, Einstein n'a rien à faire dans l'histoire, sauf qu'Einstein est une icône de la science. Et que faire figurer cette icône dans un manuel, évidemment, c'est sous-entendre une filiation avec Einstein. C'est sous-entendre une filiation avec la science. Et ça, c'est ce que j'appelle une filiation imaginaire. Alors, autre exemple qui vient à l'esprit d'un thérapeute familial que je suis par rapport à la filiation imaginaire, c'est tout ce qui se passe par rapport aux adoptions. Qu'est-ce que l'adoption au niveau réel? L'adoption au niveau réel, c'est une blessure. Une blessure que les parents ont parce qu'ils ne savent pas avoir d'enfant. Et à un moment donné, ils essayent de réparer cette blessure en adoptant. Bien. Qu'est-ce que la filiation symbolique. Je dirais que c'est l'acte d'adoption. L'acte d'adoption qui est un acte légal. Alors, qu'est-ce que serait l'adoption? Qu'est-ce que serait la filiation imaginaire dans le cadre de l'adoption? Ce serait le cas où, au fond, cette adoption est gardée secrète, comme est gardée secrète et cachée, et mise sous le boisseau, en quelque sorte, sous le tapis, comme vous voulez, l'infertilité des parents. Alors, ce qu'on sait dans ces cas-là, c'est que ça tourne à la catastrophe. Au fond, il y a un peu quelque chose de la pensée magique. Nous ne sommes pas infertiles, la preuve, nous avons un enfant. Quand on fait ça, on est sûr d'avoir une catastrophe à l'adolescence. Quand je dis catastrophe, je pèse mes mots.
Alors, et les sectes dans tout ça?
Il faut savoir que dans une secte, tous les adeptes sont frères, y compris les parents et les enfants. La secte est une mère et le gourou un père. On peut le dire en très peu de mots comme ça. Donc dans le meilleur des cas, l'autorité parentale, on l'a dit ce matin, est vidée de sa substance. Dans le pire, ils sont séparés, on l'a dit aussi, de leurs parents. Ils sont éduqués dans un contexte complètement aseptisé. Alors, pourquoi je dis aseptisé? J'avais même mis dans mon texte, je le vois en le disant par-dessus le micro, désinfecté. Parce qu'il manque, dans cette éducation, de toute façon, une imperfection inévitable, mais pour un psy, en tout cas, ça paraît évident, une imperfection nécessaire pour un lien filial qui ne repose pas sur l'absolu d'un quelconque idéal pédagogique, mais sur le relatif d'un désir d'enfant avec toute l'histoire qui accompagne ce désir. Parce que je vous signale, l'enfant existe longtemps avant sa naissance à travers le désir des parents, qui a une histoire. Alors, je suis à la fois plus pessimiste que certains des intervenants d'aujourd'hui parce que je vous parle de psychose, je suis à la fois plus optimiste parce que, quand même, et heureusement, ça je le dis en tant, à partir de mon expérience à SOSEC, la plupart des adeptes restent parents. Et ils adoptent, je dirais, ils fonctionnent à deux vitesses. Deux vitesses qui rendent compte de leur double appartenance à la fois à la secte et à la fois à leur famille, à la famille qu'ils ont fondée. Et heureusement aussi, les enfants sont naturellement très doués pour naviguer entre deux eaux. Pensez aux enfants du divorce qui doivent naviguer entre l'idéologie de papa et l'idéologie de maman. En général, s'en sortent à peu près. Cela dit, ça pose quand même un problème. Ça recoupe un concept sur lequel j'ai fait couler beaucoup de temps, donc Anne Fournier a évoqué, et qui est que l'adepte survit en fait à ce qu'il vit, le traumatisme qu'il vit en secte, sur lequel je vais revenir, en vivant son identité. Il y a d'une part un soi secte, conforme à l'idéal sectaire, et d'autre part un soi familier, qui reste, mais en secret, fidèle à sa famille d'origine et donc fidèle à la filiation. Ça a surtout des conséquences pour les parents aussi. Mais ça peut quand même avoir des conséquences sur les enfants, ça aussi je vais y revenir. Du côté quelle est la condition à laquelle le parent donne son amour à l'enfant? Je vais y revenir. Je vais y revenir et en particulier avec le deuxième concept que je voulais développer, qui est le concept de lien. Alors, c'est toujours très difficile évidemment de savoir quand un enfant a des problèmes, quelle est la part du réel et l'imaginaire dans le discours des parents. Les parents d'un adepte, en l'occurrence, peuvent dire c'est à cause de la secte, mais est-ce que c'est à cause de la secte ou est-ce que c'est à cause de l'hérédité familiale, ça peut être un peu des deux, ça peut être beaucoup l'un ou beaucoup l'autre, c'est extrêmement variable, donc la question est complexe à déterminer, mais finalement, de quoi un enfant a-t-il besoin pour grandir de façon satisfaisante? Alors, premièrement, on pourrait se demander satisfaisante pour qui? Satisfaisante pour les parents, satisfaisante pour la secte, satisfaisante pour la société, satisfaisante pour l'enfant. A priori, on pourrait se dire qu'il vaudrait mieux que ce soit satisfaisant pour l'enfant, et je pense que c'est pour ça qu'on a créé les lois de l'enfant. Personnellement, je résumerai les besoins de l'enfant à deux choses, en tout cas deux séries de choses, qui permettra à cet enfant de mener, quand il sera adulte, une vie à peu près autonome. Alors là aussi, ma filiation rejaillit quand je vous parle. Alors d'une part, au niveau affectif, il y a l'amour et les limites, le fait de mettre des limites à l'enfant, ce qui pourrait se formuler de façon moins romantique, il y a un lien qui s'inscrit dans une filiation, et il y a des lois. Quand je parle de lois, moi je pense aux lois publiques, aux lois communes, aux lois communes, mais je pense aussi, et je pense d'abord aux lois familiales, parce qu'il y a des lois dans les familles. voir par rapport à l'appartenance sectaire. Si on formule les choses d'un niveau plus cognitif, je dirais qu'il faut à l'enfant de la matière. Et puis il lui faut, je dirais pas un esprit critique personnellement, je suis moins ambitieux, je dirais des moyens de faire un tri dans cette matière. C'est-à-dire d'une certaine façon, de nouveau, des limites, des lois. En très très court, pour ne pas durer trop longtemps, ce qui concerne la matière, je dirais une seule chose, c'est que la matière, pour qu'elle s'inscrive dans la mémoire de l'enfant, il faut du lien, il faut les émotions qui accompagnent ce lien. Sans le lien entre l'éducateur et l'enfant, ça tous les pédagogues le savent, sans un minimum d'affectif, sans un minimum d'émotions qui circulent, la mémoire n'inscrit pas les informations. J'aurais beaucoup de choses à dire encore sur l'aspect cognitif, mais je vais essayer d'avancer. Et dire une chose très importante, en mon sens, parce qu'on a dénoncé à plusieurs moments les idéologies sectaires. Personnellement, moi, les idéologies sectaires ne me dérangent pas. Je ne dis pas qu'elles ne sont pas dérangeantes, je dis que moi, en tant que psy, elles ne me dérangent pas. Pourquoi? Parce que pour moi, le problème, ce n'est pas l'idéologie. Les dégâts que je peux constater en tant que psy, je ne les vois pas dans l'idéologie. Et pourquoi? Parce que le lien, fondamentalement, s'enracine dans des croyances. Je suis désolé de vous le dire, mais l'athéisme est une croyance au même titre que la religion. Croire que Dieu n'existe pas est tout aussi impossible à démontrer que croire que Dieu existe. Donc pour moi, la croyance n'est jamais un problème. On peut croire à n'importe quoi, c'est pas un problème. Parce que c'est dans ces croyances que s'enracine le lien qui, comme je l'ai dit, est nécessaire. Le problème, il est où? Le problème, il est dans les rituels. Rituels qui organisent, qui entretiennent les croyances, déjà au départ, qui organisent l'espace et le temps, etc., etc. Mais les rituels sont extrêmement importants dans la façon dont l'enfant grandit. Il y a les rituels communs, de nouveau, qui font partie du répertoire commun, puis il y a toutes sortes de rituels qui appartiennent aux familles, indépendamment de... soutiennent le changement. C'est ce qu'on appelle les rites de passage. Alors, ce qui caractérise pour moi les groupes dits sectaires, c'est qu'il n'y a qu'un seul rite de passage, à savoir celui qui préside à l'entrée en secte. Et ce rituel de passage, il se présente résolument comme une coupure. Une coupure avec l'extérieur, ça c'est d'un point de vue spatial, et une coupure avec le passé, je l'ai déjà un peu exprimé à propos de la filiation, d'un point de vue temporel. Les rituels qui arrivent ensuite sont uniquement des rituels d'entretien et des rituels qui, de façon tout à fait systématique, entretiennent la coupure fondatrice, avec une seule visée, très claire, préserver la pureté originaire sans la moindre tâche, j'entends par là, sans la moindre possibilité de changement. Et ça, en termes d'éducation, en termes de croissance, de maturation de l'enfant, c'est très, très grave. Un concept que nous pratiquons beaucoup en thérapie familiale à propos du lien, c'est le concept de double lien. Ça veut dire quoi, un double lien? Ça veut dire qu'on fait à l'enfant une prescription, une injonction. On fait à l'enfant une deuxième injonction qui est en contradiction avec la première, et puis arrive en troisième ligne quelque chose qui empêche le moindre commentaire par rapport à cette contradiction. Alors le double lien, on sait, à partir de ce que je viens de décrire en termes de coupure et d'entretien du signifiant de coupure, c'est forcément un double lien. C'est forcément un double lien d'abord parce qu'il y a un évident paradoxe à fonder le lien sur un signifiant de coupure, vous développerez un petit peu. D'autre part, parce que on a parlé des pressions exercées par les groupes sectaires pour empêcher les adeptes de sortir, mais ce dont on ne parle pas et qui, à mon sens, en tant qu'observateur sur le terrain, est beaucoup plus fondamental, beaucoup plus fréquent en tout cas, et fait énormément de dégâts, c'est la pratique de l'exclusion. On ne le sait pas assez, mais les sectes excluent davantage qu'elles ne retiennent. Alors quand vous êtes pris dans un paradoxe et que vous ne pouvez pas faire le commentaire de ce paradoxe, signaler qu'il y a un paradoxe et une contradiction, parce que vous allez vous faire mettre dehors, alors même que ce groupe qui vous met dans cette situation vous en dépendez, on a parlé des mécanismes psychologiques qui font que la dette est de ce dépendant de la secte, je ne vais pas les développer parce que ce n'est pas le thème du jour, je n'ai pas le temps. Mais vous concevez bien qu'il s'agit d'un double lien. Moi, à l'origine du mot secte, il y a ces cas, c'est tout suivre, ça peut paraître contradictoire, mais à mon sens, ça pourrait bien être le fruit d'une intuition collective. En pratique, une fois de plus, les sectes s'occupent plus ou moins des enfants. Il y a des sectes qui s'en occupent énormément, qui sont très attentifs, le mettent éventuellement au centre de leur pratique. Et là, le danger psycho, c'est important parce que le lien est très très fort. D'autres sectes laissent une marge de manœuvre beaucoup plus importante aux parents. Et en gros, les parents font ce qu'ils veulent, à condition, premièrement, de s'arranger pour que les enfants n'aient pas sur le fonctionnement du groupe, et deuxièmement, pour ne pas contrevenir aux lois sectaires. On arrive donc à un troisième point, le concept de loi. Moi, je l'aborde comme concept, n'étant pas juriste. Pour moi, il y a deux types de lois. Je ne sais pas si les juristes vont s'y retrouver, mais pour moi, il y a des lois qui servent à gérer les appartenances, et il y a des lois qui servent à gérer les conflits. Alors, du premier type, je dirais que l'infraction est sanctionnée d'exclusion. Par exemple, l'adultère est sanctionné, en tout cas il peut l'être, par une exclusion du sous-groupe conjugal. C'est une façon de comprendre la loi sur le divorce et ce qu'elle dit de l'adultère. Certaines hérésies religieuses sont sanctionnées d'excommunication. Tout ça, ce sont des lois qui président, qui organisent, qui gèrent l'appartenance. Deuxième type de loi, ce sont les lois qui permettent de gérer les conflits. Donc, si l'infraction ne remet pas l'appartenance en question. Par exemple, certaines infractions au règlement du travail entraînent le licenciement. Ce sont des lois du premier type, alors que d'autres entraînent des rétorsions, des sanctions diverses, mais pas le licenciement. Ça, ce sont des lois du second type. Du côté des lois un peu universelles, il y a la cour de l'inceste, le tabou du meurtre. Je vais y revenir, vous allez comprendre pourquoi. Quand ça se passe bien, il y a une coexistence des deux types de lois. L'appartenance est à la fois solide et souple. Par solide, il faut entendre qu'elle autorise et qu'elle supporte les différences individuelles qui peuvent exister au sein du groupe. On peut être différent et néanmoins appartenir au même groupe. Alors que dans les sectes, par exemple, si on est différent, on est exclu. Par souple, il faut entendre que dans ce groupe d'appartenance, on pratique l'exogamie. Notion très importante. Notion très importante dont je voudrais vous signaler que la frontière entre l'inceste et l'endogamie fluctue très fort suivant les cultures. Parfois, c'est pareil. De toute façon, même dans les cultures où les deux concepts sont très très éloignés, on peut dire de façon générale, et c'est ce que Freud raconte avec le complexe de Dieu, c'est que le tabou et l'inceste soutient l'exogamie. Pas développé, mais signaler quand même, premièrement, le concept psychanalytique qui pourrait nous servir, c'est le concept d'incestuel. Dans les familles dites incestuelles, Paul-Claude Racamier, qui a créé ce concept, a noté que le tabou de l'inceste était remplacé par un tabou du tabou de l'inceste. On dit encore que l'incestuel, c'est une ambiance d'inceste dans un contexte non incestueux. Il n'y a pas d'inceste, mais il règne dans le groupe familial la même ambiance que dans une famille où l'inceste a lieu. Donc on pourrait poser l'hypothèse que la prégnance d'une loi endogamique dans un groupe de croyance, vous l'aurez compris, cette prégnance existe dans les groupes sectaires, ça a une résonance incestuelle, certainement. On a parlé tantôt d'abus, on a parlé d'inceste,
il y a des tas de cas.
Maintenant, il n'y a pas des incestes, des abus uniquement dans les familles dont les membres appartiennent à une secte. Mais il y a quand même le traitement qui est fait de cet inceste dont on a parlé aussi, et sur lequel d'ailleurs j'ai envie de revenir et oui, prendre le temps de mieux développer. Donc en tout cas, premièrement, l'incestuel et les groupes sectaires interdisent l'exogamie. On ne peut pas se marier à l'extérieur. On ne peut pas trop fréquenter à l'extérieur, etc., etc. Deuxièmement, les groupes sectaires interdisent le conflit. Alors, je vais un peu développer, mais avant d'un peu développer, je vais dire mon exemple sur le traitement de l'inceste. J'ai entendu un nombre considérable de témoignages qui allait dans ce sens-ci. Premièrement, il y a un inceste. Deuxièmement, le tribunal sectaire, puisqu'effectivement les sectes ont des tribunaux personnels, interdit à la famille de porter plainte. C'est même pas un déconseil, c'est un interdit. Pourquoi ? Pour des raisons tout à fait évidentes, qui sont que ça pourrait faire un scandale qui va rejaillir sur le groupe. Deuxièmement, on décide quand même de faire quelque chose. Et qu'est-ce qu'on décide ? On décide d'exclure l'abuseur. Bien, jusque-là, ça va. On pourrait closer sur le fait que la victime, dans ces cas-là, a besoin de pouvoir, à un moment donné, voir son affaire portée en justice, etc., etc. Mais enfin, on interdit l'abuseur. Sauf, on exclut, pardon, l'abuseur. Sauf que, passé un certain délai, alors l'abuseur présente des excuses publiques. L'abusé accorde son pardon, parce qu'il est obligé, parce que ne pas accorder son pardon, ce serait un grave péché. Ça, vous voyez, c'est un exemple de ce que j'appellerais un amalgame entre une loi gérant l'appartenance et une loi gérant le conflit. Effectivement, qu'est-ce qu'on aurait dû faire ? C'est quoi l'abus tel qu'il est porté en justice ? C'est un conflit entre l'abusé et l'abuseur. Ou en tout cas, si ce n'était pas un conflit au moment de l'abus, ça doit devenir un conflit. C'est à ces conditions que l'abusé va pouvoir s'en sortir. Or, qu'est-ce qui est fou dans le processus que je viens de décrire ? Ce qui est fou, c'est le conflit. Qu'en est-il de la gestion des conflits ? Le crime de Caïn, au fond, c'est d'abord son soumission à Dieu. C'est un symbole fort de ce que les psychanalystes appellent la fonction paternelle. Alors, cette fonction, ça ne doit pas forcément être un signifiant divin, ça peut être un signifiant social. Il a d'ailleurs des incarnations, par exemple les magistrats sont des incarnations de la figure paternelle et surtout de la fonction paternelle. Et au fond, si les conflits dégénèrent en guerre, les guerres se concluent par des meurtres, et c'est là qu'on peut dire que le tableau du meurtre soutient ce type de loi. Cela dit aussi, le meurtre peut être physique, mais peut être moral, peut être affectif, peut être social. Le meurtre peut s'accomplir à des niveaux extrêmement divers. Il n'est pas. Et ce sect a mené pendant 4 années entières une étude assez complète sur le profil individuel de 24 ex-adeptes de secte et puis sur le profil familial de 25 ex-adeptes de secte. Et parmi les résultats, il y avait l'idée que les sectes gèrent les conflits par leur appel doctrinal et la culpabilisation, ce qui a pour effet de faire monter l'angoisse, sans que quoi que ce soit de cette angoisse puisse s'exprimer, je dis donc. Hein. Puisque l'expression d'une angoisse, ce serait déjà le conflit. Et plus grave encore, ce serait du conflit doctrinal. La doctrine est supposée parfaite, donc par définition, son application adéquate devrait apaiser toutes les angoisses. De façon assez générale, quand un adepte exprime des doutes sur la doctrine, on lui répond qu'il est en danger de mort spirituelle, on a eu un exemple là-dessus aussi, et que le seul antidote possible à cette maladie est le prosélytisme. On est de nouveau dans le paradoxe, parce que si vous avez un doute sur la doctrine, est-ce que ce n'était pas un peu paradoxal d'aller faire du prosélytisme ? Alors comment le conflit peut-il s'exprimer dans un contexte pareil ? Eh bien, la question est intéressante pour un psy, le conflit s'exprime dans des symptômes, essentiellement des symptômes psychosomatiques, des symptômes produits sont des symptômes qu'on va retrouver énormément chez tous les enfants. Donc je vous ai parlé du cas de pire où l'enfant est menacé de psychose, mais dans les cas les plus légers, on trouve souvent, je dirais même toujours, des symptômes psychosomatiques, des symptômes phobiques. Quand la fonction paternelle est fortement incarnée, qu'est-ce que ça permet à l'enfant? Ça permet à l'enfant d'exprimer ses conflits, les conflits internes, les conflits externes, dans un contexte bien structuré. Il peut par exemple éprouver ses contradictions, ce qu'on appelle en rhétorique la thèse et l'antithèse. On peut aussi faire ses premiers choix, ce qu'on appelle la synthèse. De façon générale, il faut savoir que cette fonction paternelle, elle est soutenue. Je me trompe un peu dans l'ordre des arguments. Donc, premièrement, il faut. Donc, vous avez bien compris que cette fonction paternelle, elle est paradoxale dans une secte. Jean-Marc Hermal, par exemple, l'a exprimé avec une formule que je trouve assez heureuse, qui avait co-errance, donc errance 2RANCE, mais la fonction paternelle est la fonction paternelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en termes de figure mythique, au fond, dans une famille normale, le père est supposé interdire à l'enfant de rester dans les jupons de sa mère. Alors que dans une secte, le groupe-père fait l'obligation à l'adepte de fusionner avec le groupe-mère. Et quelque chose de cette prescription paradoxale, donc, se retrouve dans les familles, évidemment. Se trouve un écho dans les familles. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est que la puissance paternelle, c'est-à-dire l'autorité, repose sur quoi? Elle repose, d'après Freud, et je pense que Freud a raison sur ce point et sur d'autres, elle repose sur la peur de l'enfant d'être abandonné. Cette peur, comme dit Freud, c'est un petit peu les prémices de ce qui va être plus tard le sentiment de culpabilité, qui soutient la fonction paternelle, qui soutient les interdits, les limites, etc., la loi, de façon générale. Mais que voit-on? C'est que dans une famille normale, comme ça existe, la peur de l'abandon est une peur imaginaire. Dans une secte, je l'ai dit, c'est pas une peur imaginaire. C'est une peur qui est inscrite dans le réel. C'est une peur qui est inscrite dans le réel, ne serait-ce que parce que, je l'ai déjà dit aussi, les rituels entretiennent un signifiant de coupure. C'est une menace qui peut être extrêmement concrète à travers les exclusions. C'est une menace qui s'illustre, par exemple, quand elle fait l'enfant se sent abandonné. Il y a eu plusieurs exemples ce matin. Et de façon plus fondamentale, et je vais vous dire mon exposé par là, je dirais que l'amour en secte est toujours fondamentalement conditionnel. Or, l'amour dans une famille doit être par définition inconditionnel. Et cette inconditionnalité, c'est précisément ce qui autorise la différence, donc la différenciation. C'est ça qui autorise le conflit, les conflits internes, les conflits externes, et qui permet donc à l'enfant, petit à petit, de construire ce que vous avez appelé ce matin l'esprit critique. Alors on a parfois dit que l'idéal sectaire était un fantasme de clonage, je pense que c'est assez vrai. Et je pense qu'un tel idéal appliqué à la parentalité, à l'éducation, c'est une catastrophe affective. Avec toutes les conséquences possibles dans tous les domaines de la vie, que ce soit la culture, la socialisation, la citoyenneté, etc., etc. Je vous remercie pour votre attention.
Il reste un petit quart d'heure. Si vous avez des questions, des commentaires, c'est bon. Madame, ici, s'il vous plaît.
Merci pour cet exposé vraiment passionnant. Est-ce, je ne sais pas si on mange. Allô? Enfin, c'est bon. Est-ce que vous pouvez préciser pourquoi vous avez. Est-ce que vous pouvez préciser. Non, ça ne marche pas. Là, ça me. Non. Merci. Oui, pouvez-vous toujours pas? Non, mais sinon je vais parler bien fort parce que j'ai une voix qui porte. Pouvez-vous nous préciser pourquoi vous avez indiqué que les sectes, plus qu'elles ne conservaient leurs adeptes, les poussaient à partir? J'étais un peu... ça m'a interrogé, cette façon de voir les choses. Ça n'est pas tout à fait le ressenti que nous pouvons avoir à la mission.
Je pourrais citer des chiffres en partant de groupes sur lesquels nous avons des chiffres. Mais en général, le nombre d'exclus est à peu près équivalent au nombre d'adeptes présents dans le groupe. Alors, il faut savoir que quitter un groupe sectaire, c'est très difficile, ça implique un traumatisme très important, mais qu'être exclu d'un groupe, c'est encore plus traumatisant. Et que ce que nous rencontrons en aide aux victimes de secte, et je dirais ceux qui ont les gains les plus importants, ce sont ceux qui ont été exclus, pas ceux qui sont partis d'eux-mêmes. Bien. Ça, c'est une constatation sur le terrain. Après ça, je pourrais vous dire, me référant à mon propre exposé, qu'en réalité, c'est assez logique. C'est assez logique à partir du moment où il y a un amalgame entre les lois d'appartenance et les lois de gestion du conflit. Ben forcément, au moindre conflit, la seule façon possible pour gérer le conflit, c'est l'exclusion. Si vous n'êtes pas d'accord et si décidément vous vous entêtez à ne pas être d'accord, que pouvons-nous faire à part vous mettre dehors? C'est pas que les sectes veulent exclure les gens. Évidemment, ils préfèrent garder les adeptes à l'intérieur. Mais qui font-ils de quelqu'un qui n'est pas d'accord à partir du moment où cette personne n'a pas le droit à ne pas être d'accord? Et à partir du moment où les outils robots qui permettraient de gérer un conflit n'existent pas.
Est-ce que je vais dans le même sens, et vous ne voyez pas dans ma question quelque chose de diabolique, mais est-ce que c'est une pratique ou c'est plutôt, je dirais, est-ce que c'est la pratique de la menace de l'exclusion qui a, je dirais, derrière cela, qui a la perversité, encore une fois, de dire je te rejette si tu ne me suis pas dans mes conclusions, dans mes affirmations, et donc du coup je te menace quelque part, c'est une menace.
Il y a les deux, c'est-à-dire il y a ce que j'ai appelé signifiant la figure qui s'exprime dans tous les rituels sectaires et qui effectivement véhicule la menace de l'exclusion de façon permanente, hein, les adeptes vivent dans la terreur même s'ils ne le disent pas, en tout cas ils ne le disent pas quand ils y sont, ils le disent après quand ils sont sortis, qu'ils ont vécu dans la terreur de l'exclusion effectivement, et ça c'est de la menace. Je ne sais pas si on est déjà dans la perversion, mais en tout cas on n'en est pas loin. Je dirais que c'est aussi une réalité constatée, comme je l'ai dit, et j'en profite pour ajouter un élément important qui m'avait échappé, c'est que les sectes ont une autre raison d'exclure certains de leurs membres, c'est qu'a priori un adepte de secte est supposé être autonome, ça aussi ça va peut-être surprendre tout le monde, mais un adepte de secte est supposé être autonome, c'est-à-dire il est supposé ne pas être à la charge du groupe. Au moment où un adepte devient à la charge du groupe, parce qu'il s'est affaibli, parce qu'il est malade, parce qu'il a un accident, parce que quoi que ce soit, il est impitoyablement exclu au nom de raisons soi-disant idéologiques. Pourquoi? Parce qu'il devient à la charge du groupe, ce qui est inadmissible.
Monsieur.
Donc il peut être aussi exclu, je pourrais ajouter ce petit détail, il peut être également exclu tout simplement parce que le groupe ne peut plus profiter de lui. C'est-à-dire que soit il est devenu trop critique du groupe, donc il devient un danger pour le groupe, soit tout simplement il n'y a plus de pognon, excusez-moi, mais dans le cas de la scientologie c'est typique, un nombre de clients que j'estime à environ 98% quitte la scientologie tout simplement parce que la scientologie ne peut plus profiter de non plus d'argent, ils sont bourrés de dettes et ils ne peuvent pas, vu leur âge, travailler dans la scientologie, ou pas facilement en tout cas.
Oui, d'autres personnes, monsieur.
Oui,
Jean-Luc Guénaud, de Christian Deleuze. Ainsi que l'édition de l'œuvre, je suis son collègue de mouvement. Donc, je ne veux pas absolument amener la polémique. Il faut aussi savoir des fois réfléchir, comme vous le faites ici, très bien. Et puis, voir les faits, c'est juste à plusieurs reprises a été évoqué le fait du nombre de témoignages, enfin de faits, vraiment, on peut trouver des matériaux aussi importants, parce qu'il y en a, il faut effectivement les identifier. D'accord ? Je veux faire référence ici à une, quelque chose que vous connaissez tous, donc c'est le guide qui a été édité par l'individu à l'attention des agents publics. Donc je lis simplement ce qu'il y a dans ce guide, parce que moi personnellement ça m'apporte une réflexion, peut-être à vous aussi. Bon, je conçois que dans cette salle il y a peut-être des gens dont le but est de combattre les croyances. Après tout, c'est un combat comme un autre, je ne vais pas m'y opposer ici. Pourquoi pas, c'est un combat. Hein, là, je veux simplement garder les faits, comme l'a dit M. Brun, et tout le monde, je pense que c'est important. Donc je lis ce rapport. Il est écrit toutefois, le nombre de dossiers de mineurs en danger est relativement faible au plan national en parenthèse d'une enquête en ce qui concerne les minorités. Une enquête a montré en 2003 que sur 54 000 dossiers d'assistance éducative, seuls 192 présentaient un lien avec une problématique sectaire. Vous direz 192, c'est beaucoup, mais si on retient le chiffre de 500 000 personnes concernées par les sectes, les chiffres officiels qu'on entend assez régulièrement, donc 193 victimes, c'est beaucoup, mais comparé à 54 000 sur l'ensemble de la population, c'est proportionnellement moins. Donc, je pense que ce chiffre, qui est le résultat de votre travail, qui respecte beaucoup, doit être fait en compte. Bien sûr, moi, je défends ma religion. Bon, oui, je peux vous défendre ma religion. Mais les faits sont importants. Quand il y a des violences, il faut les dénoncer, il faut que la justice fasse son travail et la police. Mais je pense que ces chiffres qui sont les vôtres doivent aussi être pris en compte. Et c'est souvent une information qui ressort, c'est qu'on manque de faits. Alors, il faut se poser des questions. Soit effectivement la police qui fasse son travail bien, l'administration, chose dont je joue. Ou alors il y a peu de faits. Je crois que la question est bonne d'être posée et voilà, je voulais la chance.
C'est aux chiffres, on peut dire tout ce qu'on veut avec les chiffres.
Excusez-moi, mais par rapport aux chiffres.
Oui.
Moi, je vous dirais que les chiffres que je pourrais, moi, collecter dans le cadre d'une association qui reçoit des victimes sont beaucoup plus pessimistes que les chiffres qui apparaissent dans la jurisprudence. Et pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de plainte.
Oui.
J'ai énormément de gens que je rencontre dans le cadre de mon association qui sont victimes d'abus, qui sont victimes d'inceptes et qui ne portent pas plainte. De toute façon, en ce qui concerne mon discours à moi, qui est à la fois la scientologie, le métacritique, le groupe en particulier, c'est que pour moi le problème c'est pas fondamentalement en tout cas le problème sectaire, c'est pas fondamentalement qu'il y ait l'inceste. L'inceste est un problème en soi, et je pense que quand l'inceste apparaît dans une famille, c'est qu'il y a quand même un fondement dans ces familles pour qu'il apparaisse. Et il ne faut pas non plus diaboliser les choses. Ce qu'on n'est pas. Enfin, moi, en tant qu'intervenant de terrain, je suis très soucieux de présenter aux adeptes, aux ex-adeptes qui viennent se présenter l'image du phénomène sectaire qui soit une image réaliste, sinon je passe pour un gugus qui raconte n'importe quoi. Et donc, il faut éviter de diaboliser, je veux dire, il ne faut pas commencer à dire, voilà, le groupe sectaire est responsable de l'inceste. Non, s'il vous plaît, l'inceste, le seul responsable de l'inceste, c'est l'abuseur. Soyons clairs là-dessus. Donc, de toute façon, non seulement ces chiffres sont plus importants, comme vous venez de le dire, enfin, que ça n'apparaît avec les plaintes, mais en plus, de toute façon, ces chiffres sont sans intérêt. Parce que ces chiffres, ils reflètent quoi ? Ils reflètent le fait qu'il y a un certain nombre d'abuseurs qui, effectivement, sont membres de groupes sectaires. Et après, il y a des abuseurs en dehors des groupes sectaires aussi. Le problème, c'est pas ça. Le problème, je le répète, c'est le traitement qui est fait de l'inceste.
Oui, je précise que dans ce domaine, il est assez évident qu'il y a un chiffre noir, comme dans le domaine de l'inceste, comme dans le domaine de la prostitution. Il y a des domaines où il est difficile d'avoir un chiffre précis, puisque les plaintes ne sont qu'un pâle reflet de la réalité existante.
En plus, si je peux me permettre d'ajouter, en ce qui concerne la scientologie et d'autres sectes, une des raisons pour lesquelles on a relativement peu d'affaires, c'est qu'il arrive de temps à autre que les mouvements expédient les enfants au dehors. Là où ils sont maltraités, par exemple aux États-Unis, ou bien dans des endroits où il y a des goulags de la scientologie, et voilà, ils sont expédiés dehors. Donc après, on ne peut plus, évidemment, passer les affaires à la jurisprudence.
Oui, je voudrais dire, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est l'abuseur qui est responsable dans n'importe quel groupe, c'est clair ou autre, mais dès lors que le groupe est au collant, il devient aussi en plus responsable. Et c'est un autre problème, et il est fondamental.
C'est bien pour ça que je parle du traitement qui est fait de la personne.
Oui, monsieur.
Toujours sur les chiffres, tous les arguments avancés sont excellents, mais en plus je voudrais souligner l'évolution du paysage sectaire en France. Les sectes subsistent, mais elles ont d'autres stratégies. Elles ont évolué parce qu'elles ont pris conscience que les pouvoirs publics avaient mis en place des dispositifs, donc les choses sont beaucoup moins voyantes qu'elles ne le furent il y a une dizaine d'années. Une secte comme la scientologie, on vient d'entendre un porte-parole, en ce moment fait davantage attention à son image et veille à ne pas révéler des aspects délictueux. C'est la raison pour laquelle les chiffres ne veulent rien dire, et l'intervenant tout de suite contribue à cette campagne. Vous avez entendu les propos qui essayent d'amener le débat sur la liberté religieuse. Alors, ce n'est pas du tout le débat, il s'agit de délits de droit commun commis par des organisations. Et donc, ça fait partie de la campagne de séduction des sectes qui veulent avoir un visage respectable.
On a bien le dire, parce que j'ai dit tout à l'heure que nous étions là pour combattre les croyances. C'est pas mon problème, encore une fois, il faut le redire. Nous ne sommes pas là pour combattre quelques croyances que ce soit, nous sommes là pour combattre ce que l'on en fait par rapport à la loi. Jean-Pierre Roy l'a répété tout à l'heure. Donc, pour nous, c'est notre seul credo. Monsieur, peu importe ce que vous croyez, nous nous en foutons comme de notre première chemise. C'est, par contre, ce que vous en faites par rapport à la loi et la religion.
D'autres choses, juste un petit commentaire au passage. Je me suis, sur le nom de la chaîne parlementaire, on a fait un très beau film qui passe dans les écoles en ce moment sur la laïcité. On est revenu sur le débat de 1905 sur les règles du jeu, parce que la laïcité c'est pas une loi contre les religions, bien au contraire. L'article 1 comme l'article 2 de cette loi est là, il y a des règles, elles sont valables pour tout le monde. Aujourd'hui, par exemple, moi je me soucie beaucoup, si vous voulez, de ce qui se passe dans les écoles confessionnelles musulmanes. Nous sommes allés avec un de nos journalistes à Lille présenter d'ailleurs ce film, nous étions très honorés, c'est à leur demande, où là c'est une école professionnelle, on apprend le Coran. Mais moi je vais vous dire une chose, je sais aujourd'hui que des esprits éclairés qui sont musulmans, on les appelle musulmans modérés, mais qui sont croyants musulmans, souhaitent que, la République, que l'État de ce pays se préoccupe aussi de la façon dont on apprend le Coran. Parce que le Coran a eu ses périodes noires, ses périodes sombres, et oui, a eu aussi ses périodes des Lumières, au Xe, au XIe siècle, avec Averroès, etc. Donc, je veux dire, ce n'est pas, le travail parlementaire, puisque maintenant je commence un peu à être spécialiste, en tout cas comme observateur, et c'est pour ça que je choisis une référence avec la laïcité. C'est tout ça, et ce, donc, dans un cadre républicain, il va bien falloir que tout le monde accepte ces règles du jeu, vous comme les autres.
Donc, je voudrais revenir sur deux trois observations. D'abord, sur le problème du chiffre, du nombre de victimes, en soulignant le fait que dans vos cabinets, lorsque vous recevez des victimes de secte, la plupart du temps, ce n'est pas dans le cadre pénal, c'est essentiellement ce projet utopique, c'est elle, sa femme qualifiée de caractère, s'inscrit dans une opposition totale, diamétralement opposée, au projet d'école. Lorsque un parent sorti de secte, qui n'appartient pas à une secte, est opposé à un autre parent qui est lui-même dans la secte, et que le conflit tourne autour de l'intérêt de l'enfant, le juge républicain se doit de prendre conscience de l'enjeu dont l'enfant est logé. Parce que derrière l'enfant dans la secte, derrière le parent qui est dans la secte, il y a tout le groupe secte. Et c'est une question de communautarisme, si on veut, c'est une question de réduction à un groupe communautaire au sein d'un groupe plus large de la communauté, que le juge ne peut pas rapprocher, mais en tout cas, garder en tout présent à l'esprit, au-delà du cas particulier de l'enfant, s'inscrit dans cette désocialisation, dans cette déstructuration de la dimension sociale. J'étais un petit peu lent, mais je crois essentiel de rappeler ces principes-là, parce que chaque fois que le juge a entre les mains un dossier de ce type en droit civil, il est confronté à quelque chose qui n'est pas du tout à saisir, c'est-à-dire au domaine de l'ancien, au domaine de l'objet antique sectaire. Et justement, pour terminer par rapport aux croyances et aux convictions qui sont bien entendues toujours respectables, mais personnellement, je suis de ceux qui considèrent qu'on doit connaître les croyances sectaires, ne serait-ce que pour expliquer aux familles d'adeptes qui sont elles-mêmes des victimes de secte, ce qui a pu se passer dans le processus, dans l'évolution de la lettre, et qui a mené cette adepte-là à se couper totalement du tissu de l'écologie. Et cette explication ne peut passer que par l'explication de la croyance et rien de plus.
C'est que
c'est que on a parlé de grands groupes, mais personne n'a encore parlé des petits groupes, voire même des groupes issus, des thérapeutes, des pseudo-thérapeutes tout à fait charlatans, etc., etc., dont les croyances sont absolument incernables, faute qu'il y ait des documents écrits sur ces croyances. Troisième écueil, à mon avis, c'est qu'en réalité, en tout cas dans mon expérience à moi, en tant qu'intervenant fondateur de SOS 7, en réalité, les familles connaissent les croyances du groupe au moment où ils arrivent chez moi beaucoup mieux que moi, beaucoup mieux que les adeptes eux-mêmes. C'est assez incroyable de voir qu'en fait, souvent, ceux que moi j'appelle les co-adeptes, les concepts auxquels Anne Fournier a fait allusion tantôt, en réalité connaissent les croyances du groupe mieux que les adeptes eux-mêmes, dans mon expérience.
Merci. Monsieur.
Monsieur le Président, le réseau parental Europe, je tenais à témoigner que les familles des parents qui ont des soucis de divorce et de séparation lorsqu'un autre parent membre d'une organisation sectaire, ça devient plus le système judiciaire n'écoute pas les parents. Et j'en suis désolé, je respecte beaucoup le travail des magistrats, mais évidemment, l'habitude, ils ne peuvent pas écouter. En 3 ou 4 minutes, comme les procédures de divorce, 5 minutes, les procédures de divorce durent, et bien ce n'est pas possible. Le magistrat n'a pas le temps d'ouvrir tous les dossiers, et on comprend bien qu'ils sont saturés. Mais nous, parents, nous demandons une simple chose. Ne serait-il pas possible de se pencher sur une idée de déconflictualiser les conflits de divorce et de séparation en marge du champ judiciaire, car c'est bien souvent défavorable aux parents non sectarisés, étant donné que le parent sectarisé va être épaulé par des conseils, et je sais s'il y en a dans les sociétaires, c'est un constat que certains ont pu faire, mais c'est normal, ce sont eux qui se défendent. Et d'autre part, penser à travailler une médiation familiale hors judiciaire afin de ne pas surconflictualiser la procédure, la séparation et le divorce, et afin que les parents se rassérènent et ne voient que l'intérêt des enfants. Et je peux vous dire que ça marche. Nous l'avons fait à plusieurs reprises dans la discrétion, ça marche. Dernière petite chose, concernant le champ d'activité de Jean-Claude Masse, je suis étonné toujours de voir les expertises psy qui sont faites à l'issue de procédures de divorce et de séparation. C'est une catastrophe. Qui pense les experts? Est-ce que M. Bernard Lambert continue à former? Est-ce que la Fondation pour l'enfance a nettoyé? Est-ce que les institutions d'aide et de défense de l'enfance en France sont considérées saines à 100%? C'est une question.
Bon, écoutez, je ne sais pas si vous allez peut-être dire un petit dernier mot, et puis on va s'arrêter là pour reprendre à 14h.
Oui, brièvement, moi je pense que c'est utile pour notre édification qui est des membres de secte ici. Parce que pour nous, ça devient quasiment un objet d'étude et de démonstration. Je veux dire par là, vous savez bien quand on est secte, surtout ceux qui parlent dans les sectes, sont entraînés aux techniques de séduction. Et nous avons eu un bel exemple tout à l'heure. Bon, on peut nous entraîner sur un terrain qui n'est pas nôtre, la religion. Il y a, notre loi règle la religion, la loi 1905. Donc, vous voyez, nous sommes des institutionnels, c'est quasiment moralement et légalement interdit pour nous de parler de religion. Et que les scientologues croient aux engrammes, et qu'ils organisent en détente qui permet à chaque fois de faire jackpot quand vous passez de l'un à l'autre, c'est leur problème, ce n'est pas le nôtre, pas du tout. Et vous avez donc pour les jeunes, deuxièmement, laissez-moi en paix, c'est pas si grave, écoutez, quand même, il n'y a que 200 cas pour quelques centaines de milliers, fichez-vous la paix, on massacre un peu de gens, mais c'est quand même pas une affaire d'État. Et si là je raisonne comme homme public, nous consultions avec Georges Fenech, il y a peut-être entre 100 dans ce contrôle de Marie José Obélo, entre 100 et 200 crimes par an meurtre pour 60 millions d'habitants. Bon, c'est pas si grave, c'est un taux de perte assez faible d'après tout. Est-ce que néanmoins, nous n'avons pas pour objet de protéger les droits de la personne? Et est-ce qu'il n'y a pas des lois dans notre pays qui les protègent? Je sais que comparaison n'est pas raison, mais oui, c'est très utile d'avoir des gens de sexe. Et c'est notre travail, nous parlementaires, dans les débats que nous faisons aux quatre coins du pays, non pas de faire peur, de déclencher les passions, mais de faire appel à l'intelligence et la réflexion pour que lorsque le débat est terminé, nos concitoyens aient les moyens de sécréter eux-mêmes les anticorps pour se protéger des atteintes aux libertés individuelles et collectives.
Deuxième séance.